Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut, salut, salut Robin, je suis très content de te recevoir aujourd'hui parce que je suis vraiment content de connaître ton histoire, ton parcours. Alors ce qui a déclenché l'épisode d'aujourd'hui, c'est un post LinkedIn que tu as fait, notamment sur la recherche de partenaires sur un gros projet que tu es en train de mener, de préparer, que tu t'es mis comme objectif fort dans ta saison de trailer. Et forcément, on va en parler de cet objectif, mais avant tout, comment ça va aujourd'hui, Robin ?
Et très bien, merci beaucoup. Et toi ?
Bah, écoute, moi, ça va très bien. Tu vois, j'ai pris mon premier dossard de l'année ce week-end. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas mis un dossard, tu vois, depuis le mois de juillet dernier. Donc, ça fait du bien de retrouver cette ambiance des départs quand tu n'es pas du côté organisateur. Mais du côté participant qui profite de l'événement, tu vois. Donc, ça fait du bien aussi de retrouver un petit peu cette ambiance. Ça m'avait un peu manqué et comme l'événement s'est bien passé, bah, tu vois, là, aujourd'hui, on enregistre le mardi, il n'y a plus de courbature, plus rien. Donc, il n'y a plus qu'à relancer la machine pour repréparer un objectif. Donc, ça va super bien. Je suis en pleine forme pour enregistrer avec toi cet épisode aujourd'hui. Il y a un truc qui m'intrigue quand même sur ton profil LinkedIn et je commence tout le temps les épisodes comme ça. C'est en demandant aux personnes que je reçois de se présenter. Mais toi, ta bannière LinkedIn, c'est marqué en gros « Je suis personne ». Alors, qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, Robin ?
Alors moi je m'appelle Robin Vez, je vis dans le sud de la France, à côté de Toulouse, à Albi exactement. Je suis chef d'entreprise, salarié et accessoirement je suis trailer, on peut dire ça. Mais avant tout, comme tu dis, je suis personne, donc voilà.
Après, pourquoi est-ce que tu te considères comme étant personne ?
Non, après je me considère comme personne parce que à chaque fois que quand je parle ou quand on est dans des débats ou quand on me demande des fois des conseils ou des petits tips, je dis toujours attention, moi je suis personne pour te dire ça, je suis personne pour te conseiller ça ou je suis personne pour t'apprendre telle ou telle chose. Donc en fait, à force de dire ça, ça en est devenu un projet, quoi.
Ah, c'est intéressant de dire je te donne un conseil qui est le mien, t'en fais ce que tu veux, maintenant tu te feras ta propre expérience par toi-même et puis prends peut-être plusieurs, c'est un peu l'esprit qu'il y a sur ce podcast aussi, hein, c'est de dire on reçoit tout le monde, des athlètes élites, des personnes qui ont des projets plus modestes et puis après chaque auditeur fait un petit peu un melting pot de tout ça et se sert des expériences de chacun pour grandir et de se développer lui-même, quoi. C'est un peu cet esprit là que tu développes, si j'ai bien compris.
Ouais, c'est ça, c'est je veux pas, en fait, tu vois, je pense qu'on a tous un avis sur quelque chose, je pense pas qu'il y ait forcément de bons ou de mauvais avis. Après, même si oui, il y a des mauvais conseils et de bons conseils, ça c'est sûr. Mais tu vois, par exemple, je te prends l'exemple d'une chaussure. Combien de fois on est venu me voir ou on est venu me parler, on m'a dit qu'est-ce que tu me conseilles ? Mais en fait, je peux pas te conseiller. C'est tellement spécifique et encore plus aujourd'hui que je veux pas dire à quelqu'un mais vas-y, prends ça, tu vois, c'est le top. Alors que s'il faut, le mec. C'est pas du tout ça va lui défoncer. Je sais que une mauvaise paire de pompes, ça peut te flinguer une saison.
Ouais, et puis tu vois, il y a un truc qui me fascine sur les réseaux, c'est ça me fait rire à chaque fois que je vois ça, c'est quand quelqu'un vient et pose une question sur le sujet de la chaussure justement, et puis que dans les commentaires t'as des gens qui répondent juste un nom de marque. T'as déjà vu ça?
Ouais.
Et...
ouais, ouais, c'est...
comme si dans la marque, il n'y avait qu'un seul modèle. Mais non, non mais en fait, c'est... il y a tout un tas de...
ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est... tu... je ne comprends pas, en fait. Après, ça, c'est mon... après, j'ai un avis, je suis... je peux être très cash et très franc ou même des fois, mais bon, c'est... ouais, je ne comprends pas parce qu'en fait... en plus, moi, je suis très mauvais exemple parce que j'ai très peu d'ampoules. Tout, à peu près toutes les paires me vont. Donc, déjà, je ne conseillerais jamais personne. Et quand les mecs, ils mettent ouais, une marque, mais en fait, je te prends l'exemple de Hoka, d'une Hoka Mafat à une Hoka, je crois que c'est le modèle Zinal ou je ne sais pas quoi, où il y a zéro amorti, où c'est fait pour faire de la vitesse. Mais si tu pars sur ça, sur un 100 bornes, tu finis, tu n'as plus de genoux. Quoi.
Mmh. Ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'est... Le conseil dans le sport est d'autant plus maintenant que les recherches en plus ont vraiment été accentuées sur ces dernières années sur le milieu de la course à pied. On sait de plus en plus de choses, c'est de plus en plus personnalisé. Avant, il y avait des grandes théories, des grandes lignes, des choses qu'on essayait de s'inspirer notamment du milieu de la route. Maintenant, il y a quand même plein de spécificités à apporter en fonction de ce que tu prépares, de qui tu es, de ton passé, de machin, des trucs. Donc donner des conseils, c'est vraiment respect. Enfin, on peut partager son expérience, mais elle est quand même à mesurer. Et puis donc c'est dans ce sens-là que tu dis, toi, je suis personne. C'est intéressant. Alors comment est-ce que tu t'y es mis au trail et comment est-ce que tu t'y es mis au sport de manière générale? Est-ce que tu as toujours été un sportif dans l'âme ou c'est venu un peu sur le tard?
Alors moi j'ai toujours fait du sport, mes parents m'ont traîné sur les terrains de sport dès le plus jeune âge, donc j'ai commencé par le foot, j'ai fait du judo, j'ai fait de l'aviron, j'ai fait de la moto, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait un peu de tout, j'ai fait beaucoup, donc beaucoup de foot, après je me suis mis au rugby, où j'ai fait à peu près un peu moins de 10 ans en faisant un peu de haut niveau sur la fin. Et après, j'ai fait du crossfit de mes 23, 24 ans jusqu'à là. Et en fait, pendant le Covid, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui nécessite pas de contraintes au niveau des horaires d'ouverture de salle, etc., etc. Donc j'ai dit, je vais faire du triathlon. J'avais vu le reportage sur le Northman là sur France 2, je sais pas si tu l'as déjà vu ce reportage c'est un triathlon de fou. En fait, tu finis le reportage, t'as envie de prendre ton vélo, d'aller faire 100 bornes, te jeter dans une mer glacée. En fait, c'est un truc de fou, ça.
Et je me suis dit, d'ailleurs à ce sujet, j'ai reçu Ronan Simon. On a fait un petit avant-après sur le Northman.
J'irai voir. Ouais. Franchement, ça m'avait plu et je me suis dit, j'aimerais bien faire ça. Donc, j'ai commencé le triathlon et je me suis aperçu très vite que le triathlon, en fait, c'était beaucoup en fait, de route et que en fait, le Northman, c'était vraiment spécifique. Donc voilà. Et puis, un été, on était en vacances avec ma copine dans les Pyrénées et j'ai dit, j'ai un entraînement. J'avais pris un coach en triathlon. J'ai dit, j'ai un entraînement et la route, ça me gonfle. Je vais monter là-haut, là, sur... à la station. Donc, je suis parti en courant et tout. Et en fait, je suis monté tout en haut sans m'arrêter. Et en haut, elle me dit, mais tu sais que ce que tu fais, c'est un sport. Et j'ai dit, c'est quoi comme sport? Elle me dit, c'est du trail. J'en avais fait quelques-uns. Ah, mais j'ai dit, c'est trop cool. Et ni une ni deux, je suis descendu en bas. J'ai mis mon vélo en vente sur le Bon Coin. Je me suis inscrit au Templier. Et à partir de là, j'ai pris dossard sur dossard. Et puis voilà, je me suis régalé. Et depuis,
tu étais piqué.
Ouais, exactement. Franchement, c'est vraiment un sport qui m'a vraiment piqué. Et je pense que c'est devenu presque une passion. Je peux dire que c'est une passion aujourd'hui parce que je m'endors, je pense à ça, je me lève, je pense à ça, je m'entraîne, après je m'entraîne tous les jours, donc c'est ça, voilà.
Quel est ton avis et ton expérience sur le, alors même si tu dis que tu es personne, je vais te demander ton avis, sur le combo crossfit et course à pied, trail en général?
Alors moi, je dis que pour moi, le CrossFit, c'est un sport fabuleux. Je pense que tout le monde, on devrait en faire dès les plus jeunes âges ou même dès 16 ans, 17 ans pour avoir quand même une mobilité au niveau du corps et une force, une certaine force. Après, ça a une limite, par contre, parce que je trouve qu'à partir d'un certain moment, quand les poids commencent à être beaucoup trop lourds, je pense que ça peut être très traumatisant si les mouvements ne sont pas bien faits. Donc pour moi, la limite, elle est là. Actuellement, je m'entraîne en plus, je fais tout mon renforcement dans une salle de CrossFit. Donc, pour moi, je trouve que les deux sont très complémentaires. Je pense que il y a l'école Kylian Jornet, l'école athlétisme où les mecs ils sont nés dans la montagne, où ils sont nés sur une piste d'athlétisme et leur corps il s'est façonné grâce à ça. Donc eux, ils en auraient besoin peut-être ou peut-être pas, mais ceux qui commencent comme moi bien plus tard ou qui ont fait d'autres sports avant, je pense que pour moi c'est essentiel, rien que pour les genoux, les chevilles, le dos, pour moi c'est essentiel.
Ouais, je suis d'accord avec toi, tu vois, mon fils qui a 7 ans maintenant, ça fait 2 ans qu'il en fait, 2 ou 3 ans même, qu'il en fait du CrossFit, et c'est le seul sport qu'on a envie qu'il garde. Autant les autres, tu vois, il fait du basket, de la natation. Alors la natation, nous on est en Bretagne, donc c'est un peu important de savoir nager. Ouais. Si tu veux aller t'amuser un petit peu en mer, en sécurité. Donc on a envie qu'il sache au moins nager, mais tous les autres, le basket, s'il veut faire du basket, il fait du basket, s'il veut faire du foot, il fait du foot, s'il veut faire n'importe quoi, il fait n'importe quoi, il peut changer chaque année, c'est pas un problème. Mais au contraire, d'ailleurs, ça apporte une espèce de diversité qui est intéressante. Mais le CrossFit, on a envie qu'il le garde, parce que c'est quand même un truc qui est hyper complet et hyper intéressant à développer. Et c'est vrai que, tu vois, j'avais commencé le CrossFit de façon assez intense, hein. Je faisais 3 séances par semaine. Et en fait, je trouve qu'il y a quand même des mouvements qui sont pas ultra adaptés pour le trail. Et c'est difficile, en fait, de cumuler wood à la salle où tu sais pas trop ce que tu vas faire, entraînement de préparation pour un objectif. Ça a été quelque chose qui était assez difficile, je trouvais, de jongler entre les deux. Toi, tu continues à en faire du coup du CrossFit ou t'as arrêté?
Moi, j'ai arrêté complètement il y a, je te dis, avant le Covid, parce que déjà, je pense que j'avais atteint ma limite. J'ai fait un peu de compétition, j'ai fait des compétitions vraiment sympas. Mais je commençais à avoir des douleurs et aux épaules, etc. Donc, si tu veux, j'ai un gabarit quand même relativement fin. Et j'ai aussi une âme de compétiteur. Donc, si tu veux, quand tu es fin et que tu fais du CrossFit, que tu galères à prendre 5 kilos sur chaque barre, qu'au squat, tu t'arrêtes une semaine, tu perds 10 kilos sur tes max, qu'au snatch, tu arrêtes une semaine, tu perds 5 kilos alors que tu as mis 3 mois à les gagner. Si tu veux, à la fin, ça m'a fatigué. Je me suis dit, Robin, c'est pas fait pour toi, t'es pas assez fort. T'as pas le gabarit pour. T'as le gabarit pour faire du CrossFit, mais pour faire de la compétition CrossFit, ça va être beaucoup trop compliqué. Tu vas pouvoir en faire, mais à un certain niveau, tu vas être bloqué. Et si tu veux, ça m'a lié. Voilà, je me suis dit, bon, fais quelque chose qui te plaît, fais un truc. Et en fait, je me suis vachement plus retrouvé dans les sports d'endurance où ça dure longtemps, où c'est très physique quand même. Donc voilà. Mais après, ouais, je fais mon renforcement dans une salle de CrossFit. J'y vais deux fois semaine, donc ça m'arrive de faire, de participer, d'y être. Donc voilà, je reste quand même en contact.
Tu as quel âge, Romain ?
Moi, c'est 32.
32 ans. Et tu bosses dans quoi ? Parce que tu as dit que tu étais chef d'entreprise, mais t'as pas donné le domaine.
Alors, je travaille dans tout ce qui est fabrication d'enseignes, marquage adhésif sur véhicules, enseignes lumineuses, panneaux, signalétique, stand, tout ça.
Tout ce qui est pub.
Tout ce qui est pub. Et après, j'ai ouvert aussi un bar sur Albi.
Rien à voir.
Ouais, rien à voir. J'adore. Rien à voir. Mais c'est un peu c'est un peu l'histoire de ma vie, ça. C'est un matin, je me suis levé, j'ai dit, punaise, tout le monde rêve d'avoir un bar. Ben, moi, j'ai ouvert un bar. Du coup, j'ai ouvert un bar.
Non, mais je sais pas si c'est quelque chose qui est spécifique à chez toi là, mais je suis en conversation en ce moment avec un gars là qui est brasseur, photographe, vidéaste. Il a aussi une location de vélo en Corse et il fait de l'import-export en Géorgie, je crois. C'est un gars de chez toi et il avait 4 casquettes ou voire 5 dans un autre projet.
Ah ouais.
Mais j'adore moi ces histoires là. Mais c'est what the fuck quoi, qu'est-ce qu'ils font ces gens?
Mais c'est ça, mais même il y en a, il me dit mais t'arrives à tout faire? Non, j'arrive pas, mais je le fais.
Trop bien, trop bien. Ok, ça marche. Et en fait, je te posais la question justement pour savoir comment est-ce que tu arrivais à jongler entre ton métier, enfin du coup maintenant tes métiers, et ton entraînement, et justement arriver à cumuler toute cette charge. Alors tu disais CrossFit, tu as dû arrêter, et entraînement du coup trail, surtout que tu disais que tu avais un caractère un peu compétiteur, donc j'imagine que quand tu te mets sur un sport, tu le fais pas à moitié. Comment est-ce que tu arrives à t'organiser et à cumuler toutes tes activités?
Alors là, c'est compliqué. Donc en fait, donc l'entreprise familiale qui est des enseignes, c'est mon père qui la gère. Donc en fait, moi je m'occupe de toute la partie commerciale. Donc le matin de 8h à midi, c'est à fond devis, rendez-vous, etc. Début d'après-midi, en fonction de mes entraînements, de mon planning d'entraînement, soit je vais m'entraîner et après je retourne au boulot, soit je fais du boulot et je m'entraîne en fin de journée. Parce que des fois, je double mes entraînements, comme aujourd'hui. Et après, pour le bar, je l'ai mis en gérance. Donc, je m'occupe que de l'administratif, les payes, les commandes. Donc, voilà. Après, j'adapte. On va dire que j'ai pas tellement... J'ai du temps libre, mais on va dire que mon temps au travail, c'est à 3000%. Quoi. J'ai pas le temps de flâner. Donc voilà comment j'adapte et après je m'entraîne. En fait, je priorise actuellement mes entraînements. Et la chance que j'ai, c'est d'être patron et d'avoir mon père qui me soutient à fond. Sinon, ce serait très très compliqué de s'organiser. Quoi.
Tu as réussi à conjuguer entraînement et vie pro en mettant tout autour de l'entraînement. Quoi. C'est ça, ouais. La priorité pour toi dans ta vie en ce moment, quoi.
Exactement. J'ai fait l'inverse de ce que font les gens. Les gens d'habitude, ils ont leur vie pro et ils mettent l'entraînement autour. Moi, je mets l'entraînement et je mets ma vie pro à côté.
Et comment c'est perçu ça de la part de ton entourage ?
Mon père, ma mère me soutiennent à fond parce que ils m'ont toujours soutenu. Ils savent que quand je fais les choses, je les fais à fond et eux, pour eux, mon père s'est remis à fond au sport grâce à tout ça. Donc, il a 60 ans, tu vois. Depuis, il a fait le half marathon des sables. Là, il s'est inscrit aux 100 km de l'île de Oléron, je crois. Pour te dire que voilà, il s'est remis à fond dans ça. Ma mère, pareil, s'est remis à fond. Et les salariés de l'entreprise et les gens, ma copine et autres, ils me soutiennent. Tu vois, ils trouvent ça cool. Voilà. Après, voilà, je suis commercial, j'ai un chiffre d'affaires à faire par mois. Mon père, il m'en fait pas cadeau, donc, voilà, quoi. Si je fais pas le chiffre, il me dit Robin, là, que ce mois-ci, c'était tranquille, non? Donc, voilà, je suis pas non plus laxiste sur le boulot, quoi. Je fais mon chiffre chaque mois et je bosse.
T'as des enfants?
Non. Non, ça c'est la chance.
Ouais. Ça, c'est... Ah, la chance, ça je sais pas.
Non, mais c'est.
Ça simplifie.
C'est un atout. Oui, sûr. C'est un atout. Franchement, j'aurais des enfants, je pense que j'en serais pas là et ça serait, j'aurais pas le même discours. Hein.
Bah, c'est sûr que ça change beaucoup de choses, hein, l'arrivée de ces petites bêtes dans une vie, ça c'est clair. Pourquoi est-ce que tu penses que tu as ce côté compétiteur? Ça vient d'où?
Je pense depuis toujours, j'aime bien gagner, je suis très mauvais perdant. Pour moi, je joue au Uno, il faut que je gagne.
C'est marrant, j'allais prendre cet exemple.
Voilà, moi je joue une eau, faut que je gagne. Point. C'est mais donc.
Toi, tu donc, dois être le premier à gueuler contre Uno, quoi.
Ouais, c'est ça. Moi, c'est je gueule contre Uno. Je suis prêt à. Si tu veux, pour pas que les gens voient que j'ai le Uno, je colle mes cartes. Je retiens les mes cartes. Je colle mes cartes pour en faire qu'une. Comme ça, ils me disent contre Uno alors que j'en ai deux. Ils prennent des cartes. Tu vois, c'est. Tu vois ce que je veux dire. Je gagne, quoi. Mais ouais, non, j'ai ce côté. Exactement. Non, mais après, j'ai toujours été. J'ai toujours fait du sport, donc du foot, automatiquement, mais t'en viens à connaître, ben, tu sais, les différentes catégories. T'as envie de gagner pour passer dans la catégorie au-dessus. Puis après, je me suis mis au rugby. J'ai fait du rugby à plus ou moins haut niveau. Ben, c'est pareil. Tu dois gagner. Puis voilà, après, compétition. J'ai toujours fait ça, en fait, des compétitions. Et donc, ça m'a forgé un peu cet esprit compétition, performance. Et voilà.
Ouais, ça se sent, c'est que c'est un petit peu dans ton caractère aussi, ça va avec le caractère chef d'entreprise où tu essayes de développer ton truc, faire du mieux que tu peux pour tes clients, pour toi, et je pense que ça va un petit peu ensemble ce côté compétiteur et dans le sport et dans tous les milieux un petit peu de ta vie, j'imagine.
C'est ça, ouais, hein? je pense que ouais, l'un ne va pas sans l'autre quand on a une entreprise ou quand. Je pense que même quand on fait un sport, et encore plus quand on fait du trail, je pense, hein, du trail ou de la course à pied, quand on met un dossard sur le ventre, c'est pour faire quand même ben, le meilleur temps, être meilleur que les copains sur le moment. Et voilà, je pense que c'est ça. Sinon, par exemple, je vois pas l'intérêt de prendre un dossard. Ça, c'est ma... Attention, hein, pareil, ça c'est ma vision. Mais par exemple, si tu veux, ben, admettons demain, je te dis, ben, je vois pas l'intérêt de prendre un dossard au GRP si c'est pas pour faire le meilleur temps. Sinon, je fais moi-même ma course en solo dans les Pyrénées, tu vois. Je fais un entraînement, je fais ma balade et ça aura le même rendu. À partir du moment où tu mets un dossard, ben on va dire, pour moi, tu t'engages avec ben déjà avec l'organisation et tu t'engages avec toi-même pour faire le meilleur résultat possible.
Donc, ah, moi, c'est intéressant. Et puis en fait, tu te rends compte qu'on est quand même beaucoup, même si on sait qu'on ne va pas aller chatouiller les podiums, qu'on est quand même pas mal à se challenger, à se batailler. Tu vois, je te prenais l'exemple de mon dossard ce week-end. Là. Je te racontais ça en début de podcast. Tu vois, à un moment, il y a un bénévole qui me dit, allez, plus que 2 km. Tu vois, j'étais à 5h50. Et je dis, ah, il faut que je passe sous les 6 heures. Tu vois, et là, tu te sors les doigts. T'essayes d'aller chercher les 6 heures. Bah, finalement, c'est presque un.
Tu vois, c'est de la compétition. Tu t'es challengé, c'est de la compétition. Après, quand je parle de compétition, de performance, c'est pas forcément faire. Oui, le mieux, l'idéal, c'est faire un podium. Mais c'est pas ça. Pour moi, c'est tu fais de la compétition, tu te fixes un objectif de temps. T'as un mec qui est devant toi, ben tu vois que au bout du 20e, 30e kilomètre, en fonction de ta course, ben il faiblit, ben tu vas faire en fonction d'eux pour le doubler et finir devant lui. Enfin, voilà, c'est une compétition. Après, faire un podium, c'est encore autre chose. Mais pour moi, la compétition, ouais, c'est donner le meilleur de soi-même, se préparer pour le donner, et puis en avant, quoi.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter ce fameux projet que tu es en train de préparer?
Alors, donc, je me prépare au GR10, donc la traversée des Pyrénées. C'est 868 km et 48 000 de dénivelé ou 55 000, ça dépend les montres et les GPS, il y a un peu tout qui se dit. Mais bon, voilà, c'est dans ces eaux-là. Et donc, je me suis lancé le défi de faire la traversée dans un minimum de temps, mais tout ça en l'espace de 1 an et demi. Donc, j'ai commencé le projet, j'ai commencé le trail en 2022. J'ai fait une année où ben, j'ai découvert les distances, etc. Et en janvier 2023, je me suis lancé ce défi de me donner 1 an et 8 mois pour réaliser cette traversée tout en étant un débutant, parce que faut dire les choses comme elles sont, hein. Je suis débutant, ça fait pas longtemps que j'en fais. Et donc voilà, je me suis entouré des meilleures personnes à mon sens pour y arriver. Et donc voilà.
C'est Adrien Séguré qui t'entraîne ?
Ouais, c'est Adrien Séguré.
La classe, rien que ça.
Yes. Déjà, ouais, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, à l'époque, j'ai eu des légères mésaventures avec un groupe d'athlètes, une fondation, enfin bref, des trucs un peu de bizarre. Où il m'avait mis un entraîneur en fait début 2023 qui était censé être un très bon entraîneur, etc. Ça s'est pas forcément très bien passé, donc je me suis retrouvé très vite sans personne, sans structure, sans rien, et je travaillais avec une agence marketing qui s'occupe de tout ce qui est un peu, branding, image, tout ça, et qui m'a dit mais tu voudrais qui comme entraîneur? J'ai dit qui peut me permettre d'y arriver, il y en a que. Je dis c'est Adrien Séguré. Et en fait, elle l'a contacté dans mon dos, comme on dit. Et puis elle m'a dit, c'est bon, il va t'appeler. Et du coup, voilà comment ça s'est fait. Et en fait, il a adoré le projet. Et puis, il a accepté de me prendre en coaching.
C'est cool parce que, je connais pas Adrien, je l'ai jamais reçu sur le podcast, mais on s'est déjà croisés sans échanger, mais c'est quand même, je pense, quelqu'un qui doit être assez demandé, surtout avec son statut de sélectionneur d'équipe de France de trail. Donc c'est chouette qu'il ait adhéré à ton projet et qu'il puisse t'accompagner dans le tien. Alors tu souhaites réaliser cette traversée, alors je rappelle, un 900 km, 55 000 de D+. Un record actuellement tenu par Eric Lavry, qui est à 11 jours de mémoire, c'est ça?
Lui, il est à 9 jours. 9 jours, 9 heures.
9 jours, 9 heures, ah oui, c'est ça. Et toi, tu souhaites mettre combien de temps?
Alors, il y a une petite part de ma tête qui me dit, Robin, t'es capable de le faire.
9 jours, 9 heures?
Et puis, moi, j'aimerais. C'est mon côté un peu naïf et compétiteur où je me dis tu peux y arriver. Après, entre ce qui se passe dans ma tête et le jour J dans mes jambes, c'est une autre histoire. Mais moi, j'aimerais bien mettre 12 jours, tu vois. 12 jours, ça serait vraiment l'idéal, quoi. Ça serait top. J'aimerais faire entre lui et Thierry Corbarieux, qui est le premier à l'avoir réalisé, qui l'a fait en 12 jours et quelques.
Il y en a beaucoup qui l'ont fait, cette traversée ?
Pas tellement. Je sais qu'il y a Aurélien Sanchez, le finisseur de la Barclay.
Oui, que j'ai reçu aussi sur le podcast, juste après.
Ouais. Qui l'a fait en off, sans assistance, mais après qui ont fait cette traversée, quand tu vas sur le site FKT, tu as Thierry Corbarieux et Eric Lavery, c'est tout.
Ah oui, d'accord, qui ont déclaré un temps, un chrono sur la traversée. Ouais. Du coup, ça veut dire qu'il y a une place pour toi au minimum sur la troisième marche, quoi.
Exactement. Ouais, là, je prends pas trop de risques, du coup. Pour le coup,
faut finir quand même.
Ouais, voilà, faut finir. C'est une autre histoire. Quoi.
Ce qui en soi est un sacré morceau quand même, quoi. Rien que
ça. C'est un défi, mais après, entre nous, ouais, demain, je le finis en 15, 16, 17 jours. Je serai très fier de moi. Je vais pas dire que je vais arriver, je vais dire, ah putain, fais chier, quoi. Non, c'est un sacré défi, c'est une grosse distance, tout peut arriver sur ce type de distance. Tu peux vite te retrouver avec une mauvaise météo, avoir un accident, ce qui arrive régulièrement dans les Pyrénées quand même. Donc c'est pour ça, hein, je. Mais voilà, j'ai quand même espoir de faire quelque chose de bien et en tout cas, je fais tout, je mets tout en œuvre pour y arriver, quoi.
Et alors, ce qui m'a fait connaître ton projet, c'est justement un post que tu avais fait sur la recherche de partenaires. Alors, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup parce que c'est aussi un sujet qui me concerne directement sur les événements que j'organise, notamment. Parce que ouais. C'est un vrai sujet qui est compliqué quand tu as envie de mener un projet, que tu as besoin de moyens, que tu crois en ce que tu veux, ce que tu es en train de monter, et qu'il faut aller le défendre et convaincre des gens pour t'accompagner sur ce projet-là. Comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu as eu des apprentissages entre le début de ta recherche de partenaires et maintenant? Raconte un petit peu comment est-ce que tu gères cette partie partenariat.
Cette partie partenariat, je la sous-traite grâce à cette agence. En fait, je la sous-traite et je la fais aussi parce que j'écris beaucoup de mails. Les entreprises locales, c'est moi qui vais les démarcher. Mais ouais, cette partie-là, en plus en ayant ce côté commercial et ce côté entrepreneur, m'intéresse un peu comme toi. Mais c'est très compliqué en français aujourd'hui de trouver des partenaires, d'intéresser des marques. Franchement, pour moi, c'est une galère. Aujourd'hui, tu vois, il n'y a pas longtemps, on m'a posé la question. Le patron de la salle de CrossFit où je suis, il m'a dit: comment tu te sens? Qu'est-ce qui te fait? Est-ce que tu as peur? Dans ce projet, qu'est-ce que tu crains? Et j'ai dit: mais franchement, la traversée, je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour m'entraîner. Je rate pas un entraînement. Je fais des volumes astronomiques. J'ai dit: la seule partie qui m'inquiète, c'est la partie partenaire, administratif et financière, en fait. Parce que cette partie-là, c'est le néant complet. C'est très compliqué de trouver de l'argent, c'est très compliqué de trouver déjà un équipementier. Aujourd'hui, j'ai aucun équipementier. Les affaires que je mets, c'est les mêmes que quand j'ai commencé il y a 2 ans et demi, 3 ans. Donc, je ne suis pas à plaindre, attention, mais il faut tout calculer parce que quand on s'entraîne avec des volumes horaires de 20 à 30 heures, il faut partir à la montagne, il faut trouver des locations, il faut se nourrir. Pareil, tout ce qui est côté alimentation, ça coûte énormément d'argent. Et du coup, la recherche de partenaires, elle est, pour moi, déjà dans un projet comme ça, elle est primordiale, mais surtout, elle est très compliquée. Actuellement, j'ai 5-6 partenaires et ils sont locaux. C'est tout. Après, j'ai rien d'autre.
Et qu'est-ce qu'on te dit quand tu frappes à leur porte?
Alors, on me dit oui. Trop bien, le projet, il est génial. Ah, mais c'est astronomique. Mais c'est incroyable. Et puis après, plus de réponse. Voilà. Tu vois, c'est... Mais voilà, c'est ça. Après, je peux comprendre qu'on peut me dire non, en fait. Mais le problème, c'est que j'aimerais qu'on me dise non. Qu'on me dise oui, d'accord, Robin, on va t'aider, et au bout d'un moment, en fait, t'en es à relancer. Sauf qu'en plus, moi, je déteste faire ça, donc même dans mon boulot de commercial, je relance pas. C'est si t'as envie qu'on travaille ensemble, tu me le fais savoir de suite ou dans un laps de temps, tu me fais savoir. À la limite, je te relance, est-ce que t'as bien reçu? Voilà, et c'est pareil pour le partenariat, je relance pas, j'aime pas ça, j'aime pas forcer la main, donc je réponds plus et puis je passe à autre chose. Mais ouais, c'est compliqué. Et tu vois, j'en reviens à une phrase polémique quand Florent Madaudou a dit « Ouais, la France, on n'est pas un pays de sport. » Mais franchement, moi, j'en suis persuadé. C'est une galère, mais... Enfin, je pensais, tu vois, en faisant de belles vidéos, un teaser, une bande-annonce, en montant un projet quand même de A à Z, un truc quali, tu vois, je pensais que ça allait être pas facile, mais tu vois qu'on allait un minimum m'aider, mais en fait non, que dalle. Donc voilà,
C'est un vrai sujet. Hein. C'est incroyable, toutes ces personnes qui ont des projets, et en même temps, je me mets à la place des marques, tu vois, qui ont de vrais enjeux de développement de leur boîte, quoi. Et tu vois, je pense qu'il y en a tout un tas, hein, qui aimeraient aider tout le monde, mais bah, ils sont obligés de faire des choix. Et ces choix-là, ils sont motivés par le projet, l'historique de la personne, la communauté qui suit. Enfin, tu vois, ils sont obligés de regarder un petit peu toutes ces métriques-là. Mais c'est frustrant, en fait, quand toi, comme tu dis, là, je suis allé voir, hein, sur l'agence qui t'accompagne. Alors, c'est Unanime. Et j'ai vu, hein, ce qu'ils ont fait, notamment pour présenter ton projet. C'est chouette, c'est quali, c'est enfin, tu vois, déjà rien que ça te fait te démarquer de la masse, et tu dis que ça suffit pas. Alors, qu'est-ce qui marche finalement pour toi?
Je sais pas. Franchement, j'ai pas de. Alors, je pense que, bah, tu sais, on vit dans un monde où je pense que Instagram a pris un certain pouvoir, et ce qui est très bien, parce que ça permet à beaucoup de personnes qui n'ont peut-être pas la visibilité, peut-être pas le courage ou une certaine notoriété de se développer. Ben, Instagram, ça permet à toutes ces personnes d'atteindre tout le monde et en tout temps. Et c'est pour moi, c'est un super outil. Donc, je pense qu'aujourd'hui, une belle communauté Instagram, ça aide énormément. Ce que j'ai pas forcément, parce que je ne sais pas, parce que je sais sûrement pas faire. Voilà, je pense que ça aide énormément. Après, aujourd'hui, je serais pas à te dire qu'est-ce qui amène, ou enfin, du moins, qu'est-ce qui aide à ça. Après, comme tu dis, je comprends totalement les marques. Elles doivent recevoir des centaines de projets, des milliers de projets par jour ou par semaine, et elles doivent tout sélectionner. Mais ouais, donc c'est pour ça que je veux pas faire le mec, tu sais, le rageux qui dit ah, mais moi, mon projet, il est mieux que. Non, mon projet, c'est un projet comme un autre. Il plaît pas, mais c'est juste que, ben ouais, au fond, tu te dis bon, ben tant pis, hein, je vais me retrouver tout seul, et puis on fera avec, quoi.
Ça a dû te coûter un petit billet quand même de faire appel à cette agence, là, déjà, rien que ça.
Le tout depuis le début, ouais, ça me coûte un billet. C'est au-delà de l'agence, tout. Tout me coûte un billet. Je finance tout.
T'as estimé à combien Alors, si tu veux donner des chiffres en détail, tu peux, hein, mais j'imagine que. Je sais pas si tu veux le faire, mais.
Non, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Pour être totalement transparent, l'année dernière, j'ai réussi à récolter. Je vais dire les chiffres comme ça. En plus, ça peut être intéressant pour les gens qui écoutent, pour plein de monde qui veut se lancer dans des projets. Moi, l'année dernière, j'ai réussi à récolter 6000 euros de 6 entreprises différentes, donc 1000 euros par entreprise, pour m'aider à payer un peu l'agence, pour m'aider à payer un peu des prises de vue. Pour m'aider à payer mes déplacements. Mais la plupart de mes déplacements, ils ont été faits de ma poche, parce qu'en fait, finalement, 6 000 euros, ben, ça fait pas grand-chose. Et cette année, j'ai récolté pour les stands 2 500 euros. Donc, et ça m'a servi pour les stands à payer mon coach mental, mon entraîneur, mais sur plusieurs mois, hein, donc mon coach mental et mon entraîneur sur plusieurs mois, et de la nutrition. Après, il faut savoir que la bande annonce, elle a quasiment été faite gratuitement, c'est-à-dire que les personnes qui ont accepté de faire la bande annonce, ils ont cru au projet, ils croient au projet. Donc en fait, ça m'a pas coûté grand-chose, voire rien. Donc ça, c'est une chance inouïe. Et après, la réalisation, en fait, d'un film comme on voulait faire au début, c'est-à-dire web série plus film avant et pendant la traversée, on était aux alentours des 80 à 100 000 euros.
Pouah. Ouais, pâche.
Ouais, ouais.
Ah ouais, faut aller les chercher, ça.
Voilà, mais là, on n'y est pas. Hein. J'ai 32 ans. Une entreprise, c'est des crédits. Une maison, c'est des crédits. Donc, en fait, moi, j'ai pas d'argent. Je peux pas me permettre de mettre de l'argent comme ça. Donc, c'est pour ça que y a une grosse recherche de partenaires. C'est pour ça que qu'on cherche. Mais voilà, après, si ça se fait pas, c'est pas grave. Hein. La traversée, c'est bien plus que ça. Je la ferai quand même. Et c'était juste que nous, on voulait créer une histoire humaine, montrer à travers de certaines images que, en fait, que quand on veut, tout est possible. Quoi.
T'as essayé le financement participatif ?
J'ai pas encore essayé, j'ose pas. je te dis, je suis très.
T'as peur de prendre un mur ?
Ouais, non, bon, enfin, un mur. Ouais, peut-être, j'y avais même pas pensé, mais oui, peut-être que je prendrais un mur, mais ça, à la limite, ça me dérange pas trop parce que. J'ai pas envie de demander aux gens de. Si tu veux, ouais, ça me. Ouais, je sais pas. J'ose pas. Je suis pudique.
Syndrome de l'imposteur.
Ouais. J'ai fait un post en plus sur ça, sur syndrome de.
Oui, je sais. C'est pour ça que je te lance là-dessus.
Non, mais je dirais pas que j'ai le syndrome de l'imposteur parce que, comme j'explique réellement, je me trouve à ma place et tout ce que je. En fait, je dois rien à personne, si tu veux. Parce que tu sais, j'ai essuyé beaucoup de critiques par rapport à mon ambition de traverser, où on me dit mais t'es cinglé, où on m'a dit mais faut être abruti, ou tu rêves, ou t'es nul, etc.
Qui te dit ça?
Si tu veux, mais des mecs, des haters, tu sais.
Sur les réseaux.
Ouais, j'en ai un paquet à l'appel, des comme ça et des trucs, mais. Mais des trucs, c'est. Enfin, même moi, je pensais que c'était pas possible qu'on dise des choses comme ça. Quoi. Mais si tu veux, tous ces gens-là, je leur dois rien. En fait, moi, j'ai pas ce syndrome de l'imposteur. En fait, si tu veux, demain, moi, je vais pas aller critiquer. Là, il y a un YouTuber qui va se lancer, qui a fait un an de préparation et qui va faire l'Everest. Je sais plus le nom, je suis pas très YouTube, mais j'ai vu ça. Mais si tu veux, moi, je vais pas aller le critiquer, lui donner des leçons de vie. Chacun fait ce qu'il veut, chacun entreprend ses projets comme il en a envie. Et moi, aujourd'hui, mon projet, c'est la traversée du GR10. C'est faire un film sur ça. Et je pense pas que j'ai des comptes à rendre à qui que ce soit, et encore moins à des gens que je ne connais pas ou à qui que ce soit. Donc, il n'y a pas ce syndrome de l'imposteur sur ça. C'est juste que je me vois. J'ai pour l'instant du mal à les demander à des gens, et surtout dans la conjoncture actuelle, aidez-moi à faire ma passion. Quoi.
Ah, c'est Inox Tag qui est en train
de. Voilà, c'est ça.
Il a tenté ça.
Bon, lui, pareil, hein, j'ai vu, il y a je sais plus qui disait qu'il prend des critiques, mais en fait, après lui, c'est encore autre chose. Il a je sais pas combien de millions d'abonnés.
7 millions.
Ouais, c'est un truc de fou. mais voilà, moi je respecte, et j'irai jamais critiquer ce genre de personne. C'est comme j'irai jamais critiquer quelqu'un qui dit aujourd'hui je vais faire un défi exceptionnel, je me lance sur un 10 km. Mais tant mieux, mec. C'est ton objectif, c'est énorme, et tu sors de ta zone de confort. Moi, jamais j'irai critiquer qui que ce soit pour qui se lance dans des projets, des aventures. Donc, si tu veux, ce syndrome de l'imposteur, non, je l'ai pas. Moi, je suis droit dans mes baskets et je suis fier de faire ce que je fais, quoi.
Bah, tu as de quoi, hein, honnêtement. Hein. Et alors, comment est-ce que tu as alors peut-être que tu, enfin, tu dis que maintenant t'en as quelques-uns, hein, des gens qui t'ont envoyé ce genre de messages, mais les premiers, ça pique, hein, parce que aucun être humain n'est fait pour recevoir ce genre d'agression. Comment est-ce que tu l'as vécu ?
Oh, pas très bien, ça m'a. Je me souviens la première fois, j'étais au restaurant et en plus, j'ai sur mon téléphone, j'ai aucune notification, à part LinkedIn, on se moque de moi quand je dis ça, bon bref.
Il y en a qui disent LinkedIn aussi.
Ouais, voilà, ça doit être ça, mais je sais que, ouais, bon, bref. Et j'ai pas de notification, et j'étais au restaurant, et j'ouvre mon Facebook, et je vois un mec commenter que je connais pas. Et là, je dis, oh là. Et là, j'en vois 4, 5, et un déchaînement. Et je me suis dit, et je, les personnes avec moi, elles me disent, mais ça va, Robin, et tout. Je dis, ouais, ouais. Je dis, là, je suis en train de me faire démonter. Et je comprenais pas pourquoi, en fait. Qu'est-ce que je leur apportais à ces gens? Enfin, voilà. Et en fait, ouais, ça pique. Les premiers, tu te dis, en fait, t'es jamais confronté à ça. Donc, et puis surtout, moi, je pensais pas que, enfin, si tu veux, des haters, t'envoies, mais c'est sur des personnes qui, sur Kylian Mbappé, sur des mecs qui, voilà, des grosses, des images, enfin, des personnages publics. Et donc là, en fait, je me suis dit, mais en fait, pourquoi? Et donc là, tu te prends ça dans la gueule et tu te dis, mais ouais, tu te dis pas grand chose, en fait. Je suis juste, t'as la petite goutte au front et tu te dis, mais mince. Donc voilà.
C'est incroyable, hein. C'est incroyable, ouais. ce que des gens sont obligés de venir ramener leurs fraises là et puis pour aller descendre les projets de certains alors que qu'est-ce que ça peut leur foutre, quoi, enfin.
Ouais, mais c'est ça, en plus c'est des, tu vois, bon, en plus là, donc il y en a beaucoup qui sont, c'est des personnes qui sont sous couvert de noms et de pseudo, quoi. Et donc bon, tu et puis il y en a certaines non. Donc je suis allé vérifier, il y en avait un, c'était quand même un coach. Hein. Donc je me suis dit waouh, ça doit être cool d'être coaché par toi parce que c'est impressionnant, quoi. Et puis tu en as d'autres, ouais, ils se cachent sous des pseudos ou pas, et puis tu vas voir ce qu'ils font dans leur vie ou leur performance parce qu'ils t'attaquent sur leur performance et tu te dis ouais, bon, allez. C'est bon, passe, parce que ça sert à rien. Et donc, voilà.
T'as fait quoi de ces commentaires? Tu les supprimes? Tu les...
Alors, au début, j'ai répondu. Parce que, en fait, je me suis dit, mais ces gens. En fait, je l'ai. Moi, personnel. En premier lieu, je me suis dit, mais. Et demain, tu fais ça à une personne qui est faible mentalement et psychologiquement, mais ça peut la détruire. Ça peut la détruire. Moi. J'ai vu ça direct. Je me suis dit, mais c'est, je peux pas les laisser faire pour toutes ces personnes qui ramassent, en fait. Donc, au début, j'ai répondu et je leur ai dit, mais vous inquiétez. Enfin, je leur ai dit, vous savez, mon compte Strava, mon compte Instagram, mon compte Facebook, tout est public. J'annonce mes courses. Je sais, vous savez à peu près où je suis. J'ai dit, vous savez, derrière votre écran, c'est bien, mais on prend vous connaissez ma saison, on prend le même dossard et puis. Puis on en discute ben, à la ligne de départ et à la ligne d'arrivée. J'ai rien à cacher. Je dis donc. Et en fait, ben, les mecs, ils répondent pas. Parce qu'ils n'assument pas. Et voilà. Et puis, j'ai fait ça au début. Et puis après, j'ai commencé à supprimer. Parce qu'on m'a dit, ben, Robin, supprime. Ou réponds plus. Ça ne sert à rien. Il ne faut pas que tu rentres dans ce jeu-là et dans cette négativité. Et ça m'a porté peine parce que des fois, il y a quelques qui se perdent, mais ouais, maintenant je supprime, j'y accorde plus trop d'importance parce que j'ai pas le temps, en fait. Puis surtout, ça m'anime pas, tu sais, on te dit beaucoup de ouais, serre-toi-en pour performer, mais moi ça m'anime pas. Moi, ce qui m'anime, c'est les gens qui me soutiennent, c'est ma famille, mes amis, ceux qui me disent putain bravo, ou ceux qui me disent ben voilà, les trucs bienveillants, ça m'anime. Tout ça, en fait, ça m'animait même pas, donc au final j'ai commencé à supprimer.
Alors mieux que supprimer, faut masquer, parce que quand tu supprimes, la personne elle voit que t'as supprimé, et masquer, elle voit pas que t'as. Ah bon, comme ça, les autres ne le voient pas, mais lui il le voit toujours, et comme ça il a pas l'impression que. Mais du coup, il se retrouve un peu ignoré et c'est encore mieux que de supprimer.
Enfin, ah, ça, merci c'est pour le tips.
Mon petit tips. mais c'est vrai que, et c'est assez fou parce que tu vois, tu vas partager ton projet, ton défi, etc. Tu vas avoir, alors je dis une connerie, mais tu vas avoir 100 personnes qui vont te dire, ouais, c'est magnifique, respect, bon courage, hâte de suivre ça, cool, machin, blablabla. Bla, bla, bla. Et t'en as un qui va venir, qui va te dire, espèce de gros prétentieux, ambitieux.
Ouais, c'est ça.
Et en fait, c'est que lui que tu vas retenir. Il n'y a que lui qui va te bouffer le cerveau. Et en même temps, tu vois, ça, pour faire un peu la boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la recherche de partenaires, bah t'es un peu obligé de jouer à ce jeu des réseaux sociaux et de montrer publiquement ce que t'es en train de faire. Parce que sinon, bah, tu peux pas avoir, t'as pas d'argument pour aller chercher des partenaires. Donc, tu vois, faut être, comme tu dis, faut être prêt, en fait, psychologiquement, à accepter ça, quoi. C'est pas facile.
Ouais, non, mais c'est ça, il faut être prêt. Et comme tu le dis, en fait, si tu t'exposes pas, si tu dis pas ce que tu fais, ben, tu n'as pas de partenaire. C'est impossible. Il faut m'expliquer, hein, comment, faut me donner le secret. Parce que voilà, donc tu vois, moi il y a 2 ans, enfin quand j'ai commencé un peu, j'ai commencé à me mettre, ben, tu vois, mais avant ça je n'utilisais quasiment pas Instagram. Si je prenais des photos de bière, de soirée, voilà, c'est tout, mais je n'utilisais pas du tout Instagram. Et aujourd'hui, ben, je l'utilise constamment parce que c'est une vitrine. Aujourd'hui, c'est ta vitrine, c'est ce qui te permet d'être attractif pour les marques, et si t'as pas ça, ben, tu n'as pas de marque.
Ah, en plus, je suis allé le voir, ton compte Insta, là. Moi, j'aime bien faire tout ça en direct, hein, pendant que je suis en échange avec les invités, parce que, comme je te disais, j'ai pas de questions écrites et tout, je découvre au fur et à mesure. Et en plus, il est plutôt quali, hein, ton compte Insta, avec 6500 abonnés, comme t'as du contenu qui a l'air d'être bien travaillé. J'imagine que c'est l'agence aussi qui t'a accompagné dans ce développement. Donc voilà, bon, j'invite tout le monde à aller voir le compte Insta de Robin. Robin, tiré du. C'est combien celui-là? Le 8.
Je sais pas, tu tapes Robin Vez, il n'y en a pas beaucoup dans le monde.
Non, j'ai trouvé assez facilement, donc vous devrez trouver facilement si vous voulez aller suivre Robin. Tu disais que tu avais un accompagnement en prépa mentale. Alors là, on change de sujet, hein, complètement, tu vois. Enfin, un petit virage à 360. Mais t'inquiète. comment est-ce que ça se matérialise, concrétise? Quels sont les apprentissages que tu as pu faire? Comment est-ce que ça se passe, en fait, concrètement? Parce que c'est pas quelque chose de très courant encore aujourd'hui, la prépa mentale, autant l'accompagnement entraînement, nutrition, etc. C'est des choses qui se font depuis quand même quelques temps maintenant, mais on n'entend pas souvent des athlètes qui sont accompagnés mentalement. Comment est-ce que ça se déroule pour toi?
Alors, moi, j'ai une séance semaine par téléphone. Par téléphone ou visio, ça dépend. Sinon, après, des fois, il passe. Il est de Bordeaux. Alors, pour le coup, c'est Grégory Mallet. Il a été médaillé olympique au relais 4x100 mètres. Médaillé d'argent derrière le relais de Phelps en 2000 et quelques. C'est aussi le coach mental de Joan Zarco en MotoGP. Donc voilà, j'y fais un peu sa pub parce qu'il le mérite.
2-3 bonnes refs quand même, quoi.
Ouais, voilà, c'est pas mal. Tu vois, donc c'est pour ça que j'ai essayé de trouver les personnes qui pouvaient m'aider vraiment. Et en fait, pendant 30 à 30 minutes, 1 heure, on discute, on parle, il me demande comment ça se passe. Et on parle de tout, en fait. On parle du sport, mais on parle aussi de ma vie pro, on parle de plein de choses. Et il a une façon de toujours positiver qui fait que, en fait, à chaque fin d'appel, ben, tu te sens vachement libéré, quoi. Non, franchement, c'est impressionnant. On va dire que dès le début, je me suis dit, ça peut être important, ça peut apporter un plus, le coaching mental dans ce genre de projet, et surtout, mais même sans être dans ce genre de projet, dans le projet dans un ultra ou autre, où on sait que notre cerveau, il nous joue des tours tout au long de la course, ben, je me suis dit, ça peut que m'apporter un plus. Et en fait, aujourd'hui, je regrette pas, parce que ça m'apporte énormément, ça m'apporte une stabilité émotionnelle, ça m'apporte énormément de choses. Et tout ce qui est négatif, comme ben, par exemple, tu vois, on parlait de la recherche de partenaires, ben, lui, il arrive à le transformer en choses positives. Il arrive à transformer toutes ces choses où tu te dis, putain, mais cette semaine, ça s'est pas bien passé, ou ben, lui, tu passes 1 heure au téléphone avec, tu finis, ben, t'as l'impression d'être un homme nouveau, quoi. Donc voilà.
Et il t'a aidé, par exemple, sur des périodes ou des trails que tu aurais pu faire et où tu penses qu'avant tu aurais peut-être relâché, et là Enfin, comment est-ce que ça se matérialise concrètement, l'aide qui t'a apporté?
Ben, par exemple, alors depuis que je l'ai depuis le mois de octobre-novembre, donc je n'ai pas fait de course depuis. Mais ça, par exemple, lors de mes entraînements, ben tu vois, des fois j'ai des séances, c'est par exemple 3-4 heures de trail avec tant de dénivelé. Où c'est 4 heures de trail avec 1500 à 2000 de dénivelé. Ou des fois, voilà. Et bien, en fait, ça se matérialise qu'avant de l'avoir, ben, tu vois, tu étais un dimanche, tu sais comment c'est, le dimanche, tu as envie d'être au chaud à la maison, alors que ben, là, tu es dehors sous la pluie. Ben, au lieu de faire 3h10, ben, je faisais 4 heures.
D'accord.
Tu vois, mes entraînements, ils étaient vachement plus poussés, plus dans la ouais même si à 3h10 mon entraînement il est bon puisque mon entraîneur m'a dit de 3h à 4h, mais là je poussais vraiment jusqu'à 4h, et encore aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui mes entraînements il y a 3 à 4 heures et ben c'est plus 4 heures, il y a 1500 à 2000 de dénivelé, ben ça va être plus 1700 1800 jusqu'à 2000 de dénivelé, tu vois, je repousse à chaque entraînement la limite, quoi.
Ok, je comprends. Et pour tout ce qui est croyances limitantes, tous ces sujets qui aident en fait le cerveau à faire passer le corps à une étape supérieure, est-ce qu'il t'a aussi aidé sur ces sujets-là?
Non, pas. On n'en a pas encore. Non, on l'a pas évoqué.
Parce que c'est vrai que sur les athlètes des athlètes élites, c'est quand même un des éléments. Enfin, on voit Mathieu Blanchard qui a étudié les neurosciences, qui a poussé le truc, il a poussé le jeu assez loin, et notamment juste avant sa deuxième place sur l'UTMB. Bon, comme on peut voir, ça a porté ses fruits, et on voit bien, hein, ceux qui travaillent, et enfin ils ont des résultats, donc c'est pas pour rien. Top. Alors du coup, c'est quoi là les prochaines grandes étapes avant d'aller se confronter à ce GR10?
Alors là, après demain, je pars en stage, du coup avec Adrien Séguré dans l'Aveyron, et je crois qu'il y a même Mathieu Blanchard. Voilà. Donc là, ça va être un beau week-end avec de grosses sorties.
Et ben, ensuite, tu passeras le bonjour à Mathieu.
D'accord, sans faute. Sans faute. Hein. Et après, j'ai la Maxi Race à Annecy, le 1er juin. Et la traversée. Voilà, pas plus. Peut-être en fin d'année, j'aimerais bien faire commencer à préparer la saison suivante. Donc peut-être Nice by UTMB. Et voilà, après, bon, beaucoup de gros. Je pense qu'avant avant la tentative, il va surtout y avoir des gros week-ends d'entraînement comme j'ai pu faire l'année dernière. C'est-à-dire où si tu fais entre 130 et 180 km en 3 jours. Ça, j'en ai fait un paquet l'année dernière. Donc, je pense que ça va être les gros points avant la traversée, quoi.
Et alors, c'est quand cette traversée déjà exactement?
Le 10 août, ouais.
Le 10 août, ok. Eh ben, écoute, comme je te l'avais dit avant qu'on commence cet épisode, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de faire un petit avant-après. Donc, on a un peu les coulisses, enfin, l'avant, la préparation. Alors, même si on n'a pas non plus énormément parlé d'entraînement et de savoir. Même si tu as donné un peu quelques chiffres, mais en tout cas, on a un bel aperçu de ton historique et de ce que sont tes problématiques, comment est-ce que tu fais pour les résoudre. Et puis, ce que je te propose et ce que je vous propose aussi, chers auditeurs et chères auditrices, c'est de faire un épisode une fois que tu auras réalisé, peu importe, hein, le score final, ouais. De que tu nous racontes l'histoire après. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé au sujet de cet avant et que tu aurais aimé ajouter à notre échange pour le clôturer?
Oh, je pense qu'on a fait le tour. Bon, on n'a pas parlé trop d'entraînement, mais je pense que bon, de toute façon, ça c'est comme les chaussures, c'est un peu spécifique à tout le monde. Après non, je pense qu'on a quand même évoqué pas mal de choses sur. Puis bon, comme je t'ai dit, je suis débutant, il n'y a pas grand-chose à raconter sur mon passif. Hein.
Bah c'est ça qui est intéressant justement, c'est de partager les. C'est ça que j'aime faire sur ce podcast, c'est justement de partager les histoires de chacun et de montrer qu'il n'y a pas un seul chemin pour arriver au même résultat. Et, et que finalement, bon bah voilà, tu vois les grands parcours des coureurs les plus connus qui sont toujours interviewés et que tu connais, que tu connais par cœur et tu revois, mais en fait tu te rends compte qu'il y a plein d'autres façons d'y arriver et ça c'est à mon avis aussi hyper intéressant de le partager et c'est pour ça que je tiens à recevoir absolument tout le monde sur ce podcast et merci d'avoir partagé ton histoire aujourd'hui et puis ben je te souhaite bien du courage pour ce défi et puis toutes ces heures et ces heures d'entraînement et tous ces kilomètres que tu vas parcourir jusque là et en espérant pour que tout se passe pour le mieux dans ce projet pour toi et puis ben écoute je vais suivre ça avec grand plaisir. Merci beaucoup Robin.
Bien, merci à toi François, c'était top.
À bientôt.
À très vite.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PLANETRAIL, PLANETETRAIL. Tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très bon footing, très bon trajet. Bref, ce que tu es en train de faire, je te le souhaite un très bon. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Bye bye.